Les dessous de l'infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'infox. Depuis 3 ans, un discours anti-néocolonial ressurgit de façon sélective dans la bouche des propagandistes et des plus hauts responsables russes. Il vise l'Afrique et plus largement les pays du Sud. Avec le chercheur Maxime Audinet de l'IRSEM, nous évoquons la façon dont ce récit se propage à des fins stratégiques. Une instrumentalisation de l'histoire concomitante avec le déclenchement de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Là où il y a conflit ou tension diplomatique, les manœuvres informationnelles se multiplient. On le voit notamment en Afrique de l'Ouest ces jours-ci, c'est l'Algérie qui est visée dans l'exemple choisi par Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI. On le retrouve tout de suite pour la chronique des Dessous de l'Infox. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Cette semaine, vous avez repéré sur les réseaux sociaux de fausses rumeurs de coup d'État ciblant l'Algérie. Alors plusieurs comptes sur différentes plateformes affirment à tort que le régime d'Abdelmadjid Tebboune aurait été renversé par l'armée ce mardi. Des informations sans aucun fondement mais qui ont beaucoup circulé.
Oui, la rumeur s'est répandue en ligne après la publication sur TikTok d'une série de vidéos par un compte pro-malien relativement influent avec près d'1 million d'abonnés et plus de 6 millions de likes. L'homme, reconnaissable avec son béret rouge, se filme face caméra et il annonce
« Coup d'État en Algérie, vraiment, voici l'image, vraiment, selon l'explication, le pouvoir algérien, Abdelmadjid Tebboune, vraiment, il était renversé aujourd'hui depuis à 4h du matin. »
Pour appuyer son récit, plusieurs images défilent derrière lui. On y voit des milliers de manifestants défilant sous des drapeaux verts et blancs, suivis d'une revue des troupes de la part du général d'armée algérien Saïd Chanegria. À en croire le commentaire, c'est lui qui aurait pris le pouvoir par la force.
Sauf que vérification faite, c'est ce que l'on appelle une infox. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet.
Oui, soyons clairs, il n'y a pas eu de coup d'État en Algérie ces derniers jours. Abdelmadjid Tebboune n'a pas été chassé du pouvoir. On a d'ailleurs pu le voir ce mardi à Alger, aux côtés du ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération Bakary Yahou Sangaré. L'armée ne s'est pas rebellée, la rumeur a simplement été fabriquée de toutes pièces.
Et sur la forme aussi, tout est faux. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'infox est fabriquée, Grégory.
Oui, comme c'est souvent le cas, les images présentées comme des preuves sont toutes sorties de leur contexte. Grâce à une recherche par image inversée, on sait que la vidéo montrant des manifestants a été filmée dans les rues d'Alger en octobre 2019. Nous l'avons géolocalisée au niveau de la rue Aslaoucine, à côté de l'Assemblée populaire nationale. Quant à la revue des troupes du général Saïd Chanegria, la vidéo est bien récente, elle date de ce dimanche, mais elle montre en réalité la cérémonie d'installation officielle du nouveau commandant de l'armée de l'air, le général-major Soubir Gouila. Rien à voir donc avec un supposé coup d'État.
Et ce n'est pas la première fois que de fausses rumeurs de coup d'État circulent sur le continent africain.
Non, les faux coups d'État se multiplient. La Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et l'Algérie en ont notamment été victimes ces derniers mois. Ces rumeurs sont devenues un véritable moyen de déstabilisation informationnelle. La recette est plutôt simple, mais les chiffres de viralité montrent que ces infox touchent à chaque fois un certain public. Et ça, les commanditaires de ces opérations de désinformation l'ont visiblement bien compris.
Alors, au-delà de leur viralité, comment expliquer l'augmentation de ce type d'opérations sur les réseaux sociaux ?
Alors, il faut dire que sur fond de guerre d'influence grandissante au Sahel et au Sahara, le contexte informationnel s'est particulièrement tendu. Des comptes pro-maliens, pro-algériens ou pro-marocains notamment s'affrontent quotidiennement sur les réseaux sociaux en diffusant des infox pour déstabiliser le voisin. Et la première victime de cette bataille numérique, c'est l'information fiable et vérifiée.
Merci Grégory Genevrier. En observant à la loupe ce type de manipulation, on finit par les voir venir. On se donne un peu les moyens de les détecter. Et puis surtout, quand il y a de réelles tentatives de coup d'État, eh bien, mieux vaut s'en remettre aux sources d'informations les plus fiables, vous l'avez dit. Alors au-delà des infox, il y a aussi des moyens plus subtils de manipulation de l'opinion. Avec notre invité à présent, on revient sur le rôle que peut jouer la construction d'un récit stratégique.
On en parle.
Bonjour Maxime Audinet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et puis cofondateur du collectif de recherche sur la Russie contemporaine et ses nouvelles trajectoires, Coruscant. Vous signez une étude intitulée « Abat le néocolonialisme, entre guillemets, résurgence d'un récit stratégique dans la Russie en guerre, et puis aussi une contribution aux études du CERI avec ce titre, Enquête de désoccidentalisation, la stratégie d'influence de la Russie en Afrique subsaharienne. Alors, dites-nous tout d'abord pourquoi parler à propos de l'anti-néocolonialisme d'un récit stratégique ?
Alors, ce qui m'intéressait, c'était finalement de regarder, on parle beaucoup souvent de narratif, de récit, qui sont des termes qui sont souvent employés aujourd'hui. Ce qui m'intéressait, moi, c'est de vraiment creuser cette notion de récit et de comprendre pourquoi, dans le cadre de la Russie et dans le cadre de cette résurgence depuis l'invasion de l'Ukraine, de ce discours anticolonial, les acteurs russes sur lesquels j'ai travaillé utilisent une forme de discours particulière qui est justement celle des récits. C'est une forme de discours par lesquels nous, êtres humains, nous cherchons à donner un sens finalement à une réalité qui peut être chaotique. C'est le fait de raconter des histoires, d'utiliser des personnages, d'utiliser une temporalité particulière. Et ce qui m'intriguait en fait dans le cas de la Russie, c'était de voir que justement, dans cette résurgence de ce discours anticolonial, c'était la forme du récit qui primait dans la bouche de Vladimir Poutine, dans la bouche de différents membres des élites du pouvoir, et puis surtout aussi dans les différents acteurs de l'influence russe qui sont aujourd'hui actifs sur le continent africain.
Vous datez assez précisément la résurgence de ce discours.
Oui, ce qu'on constate, c'est que en fait, le discours anticolonial, il était évidemment au cœur de la politique étrangère de l'Union soviétique, notamment au moment où l'URSS a soutenu les mouvements de libération nationale et de décolonisation, en particulier en Afrique, mais pas seulement. Et à la chute de l'URSS, c'est vraiment une rhétorique qui a été totalement abandonnée par le pouvoir russe et même dans la grammaire diplomatique de la Russie. Or, ce qu'on observe depuis l'invasion de l'Ukraine, et c'est ça qui m'intriguait, donc ma question de recherche, c'est pourquoi depuis février 2022, on voit réapparaître ce discours, c'est justement que d'un seul coup, on voit que des personnages comme par exemple Vladimir Poutine, comme le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, comme l'ancien président Dmitri Medvedev, se mettent à employer très régulièrement ce discours pour dénoncer l'interventionnisme et la politique étrangère des pays occidentaux dans le monde et plus largement au sein de l'ordre international.
Et alors vous, en tant que chercheur, évidemment, vous avez fait ce qu'on appelle de l'analyse lexicale, c'est-à-dire que vous avez vraiment quantifié le recours à ce récit.
Absolument. Donc ce que j'ai fait dans mon travail, c'est que j'ai commencé d'abord par regarder qui parlait de ce discours et puis de regarder comment ils en parlaient. Ce que j'ai essayé de faire, j'ai pris le cas de Vladimir Poutine qui, souvent d'ailleurs, le président d'un pays est justement un acteur qui est un grand producteur de récits qui utilise beaucoup, on le voit très bien par exemple chez une autre figure comme Donald Trump, mais Vladimir Poutine le fait aussi. Et donc j'ai comparé en fait comment il utilisait le champ lexical du colonialisme depuis son arrivée à la présidence à la fin de l'année 1999, en le comparant d'ailleurs avec une autre rhétorique qui est celle du conservatisme qui est aussi très connue dans le cadre de la Russie. Et ce qu'on observe, c'est que par exemple en 2023, Poutine a plus parlé du colonialisme que durant tout le reste de sa présidence entre 1999 et l'invasion de l'Ukraine.
C'est, si on c'est regarde pour ça que vous parlez vraiment d'une stratégie de sa part.
Absolument. Et donc, on voit, par exemple, que depuis février 2022, il a utilisé à peu près 150 fois cette rhétorique de l'anti-néocolonialisme, là où il l'avait utilisé moins d'une cinquantaine de fois avant l'invasion de l'Ukraine.
Ben, on va l'écouter, justement. On a choisi un extrait que vous mettez en exergue de votre étude. On l'écoute, Vladimir Poutine.
Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы.
L'Occident est prêt à franchir toutes les limites pour préserver le système néocolonial qui lui permet de vivre au crochet du monde. Nous sommes fiers que notre pays ait été au XXe siècle à la tête du mouvement anticolonial qui a permis à de nombreux peuples dans le monde de progresser, de réduire la pauvreté et les inégalités, de vaincre la faim et la maladie. L'une des raisons de la russophobie séculaire et de l'animosité affichée des élites occidentales à l'égard de la Russie est précisément liée au fait que nous ne leur avons pas permis de nous voler pendant la période des conquêtes coloniales.
Maxime Audinet, pourquoi avoir choisi cet extrait particulièrement ?
Alors, c'est un extrait qui est à mon avis assez significatif parce qu'il est utilisé non pas dans une arène comme par exemple le sommet Russie-Afrique qui est bien connu où Poutine, par exemple, s'est adressé d'ailleurs en utilisant là encore cette rhétorique à des leaders africains. Il est utilisé dans un tout autre contexte qui est celui de l'annexion l'annexion par la Russie des 4 régions d'Ukraine qui ont été occupées par l'armée russe.
Donc les régions de l'est de l'Ukraine, voilà, Luhansk, Donetsk,
Kherson et Zaporizhia. Et en fait, on peut se demander pourquoi est-ce que Poutine utilise cette rhétorique dans ce contexte-là. C'est vraiment de là que je suis parti pour me poser cette question de recherche.
Question que l'on vous pose. Alors. Voilà.
Et donc, ce qui m'a paru intéressant de démontrer par la suite, c'est qu'en fait, derrière cette résurgence narrative, en fait, il y a une certaine représentation des événements que la Russie souhaite imposer au monde. Notamment en produisant plusieurs choses, c'est-à-dire en renouvelant la critique de la politique étrangère occidentale, en inversant l'accusation. C'est-à-dire au moment même où la Russie mène une guerre néo-impériale et que même certains analystes qualifient de néo-coloniale en Ukraine, eh bien, la Russie va instrumentaliser la mémoire du soutien soviétique à la décolonisation, va l'actualiser et la transposer dans la période contemporaine pour finalement expliquer au monde que la Russie aujourd'hui fait la même chose. Elle lutte contre le néocolonialisme de l'Occident, non seulement en Afrique, en particulier au Sahel, où on sait que la Russie est très présente, notamment à travers le groupe Wagner, mais aussi en Ukraine, puisque c'est l'Ukraine elle-même qui est présentée. Je cite là Dmitri Medvedev, qui utilise cette notion dans une tribune qu'il a publiée dans un quotidien russe gouvernemental, Rassiyskaya Gazeta, où il parle de l'Ukraine comme un bastion néocolonial de l'Occident. C'est-à-dire de dire aussi que, finalement, l'Occident a toujours essayé de coloniser la Russie, de coloniser son voisinage, et que la Russie s'oppose à ce phénomène comme elle s'est opposée à ce phénomène, notamment en Afrique, dans les années 60, 70, etc.
Alors ça, c'était une réalité, parce que ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que tout en faisant cette analyse du discours stratégique russe, vous n'êtes pas dans le déni du fait colonial.
Absolument. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'interroger sur la stratégie d'influence de la Russie, non pas uniquement en termes de désinformation, de production d'informations falsifiées, mais justement de récit. Puisque par définition, un récit s'appuie sur des éléments véridiques, sur des éléments faux, sur une forme de rapport sélectif, en fait, au temps, aux événements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les acteurs russes vont aller puiser dans certains éléments qui permettent de mettre en récit, de créer des personnages, donc la Russie qui soutient des pays africains qui sont victimes du colonialisme occidental, donc les gentils, les méchants, etc. On est vraiment dans une histoire. Ce qui est maintenant intéressant, c'est que, par exemple, le réservoir anticolonial dans lequel la Russie va puiser aujourd'hui, dans lequel le pouvoir russe va puiser, est lui-même extrêmement sélectif et limité.
C'est-à-dire oui, parce qu'il y a eu un empire russe.
Absolument.
Par le passé
donc,
aussi.
En fait, la référence, c'est vraiment les années Khrushchev-Brejnev, pendant la guerre froide, avec le soutien très clair de l'Union soviétique et de l'internationalisme marxiste-léniniste à la cause anticoloniale. Mais par exemple, vous avez tout un répertoire anticolonial en Russie qui émerge, par exemple, notamment dans les années 20, autour d'une école que je mentionne, l'école de Pakrovsky, qui est une école marxiste-léniniste qui dénonce très fortement le colonialisme russe à l'époque impériale. D'ailleurs, on pourrait
dans une autre zone que l'Afrique.
Donc, absolument,
dans son proche voisinage.
Voilà, dans son voisinage, en Asie centrale en particulier, dans le Caucase. On peut même remonter, pour citer une illustre source, à Tolstoï, à Léon Tolstoï lui-même, qui, dans son roman Hadji Mourad, par exemple, va dénoncer très violemment le colonialisme russe vis-à-vis des populations du Caucase. Donc, il y a une école russe anticoloniale qui critique le propre colonialisme russe, mais celle-ci n'est absolument pas mobilisée, justement, dans cette résurgence anticoloniale contemporaine.
Et on s'aperçoit aussi du même coup qu'il y a une sorte d'anachronisme, puisque c'est un peu au moment où la France est en retrait qu'est produit ce récit.
Disons que il y a ce qui est important de rappeler, c'est que avant que le pouvoir russe lui-même mobilise ce récit, en fait, on a un acteur qui commence à l'utiliser avant l'invasion de l'Ukraine, et notamment à partir de 2019-2020, qui est feu Yevgeny Prigojine, le fondateur du groupe Wagner, qui a été pendant quelques années l'acteur principal en fait de la politique étrangère de la Russie en Afrique.
Mais alors, c'est de sa propre initiative ?
Alors, ça, c'est toujours difficile à déterminer, mais le fait est que lorsqu'on regarde les discours, lui en parle, les acteurs qui gravitent autour de ce qu'on appelle la galaxie Prigojine en parlent, alors même que, par exemple, Vladimir Poutine n'en parle pas.
Et il en parle une fois qu'il a mis les pieds en Afrique ? avec les troupes de Wagner.
Ça commence à émerger. Alors voilà, et en fait, Prigogine se met à utiliser cette rhétorique quelques années après son arrivée en République centrafricaine, mais surtout au moment où il arrive au Mali. Et là, on est en plein dans cette concurrence entre justement la France et la Russie au Mali, au moment où on a une critique de plus en plus forte de la présence française, un retrait qui va peu à peu se confirmer de cette présence française et un déploiement du groupe Wagner qui va justement, parallèlement à, je dirais, cette prestation de sécurité que Wagner offre à des régimes putschistes, va mettre en branle toute une machine informationnelle et à tout un, je dirais, un certain nombre de campagnes d'influence qui vont mobiliser quotidiennement cette rhétorique anticoloniale pour justement dénoncer le néocolonialisme de la France et le fait que la Russie, elle, vient protéger finalement les souverainetés africaines et ces régimes issus justement de coups d'État qui, eux, défendent aussi cet agenda souverainiste. Donc on a cette convergence qui arrive à ce moment-là.
Avant le Mali, il y avait la Centrafrique. Et c'est là que les Russes se sont implantés en premier, on peut dire.
Et justement, on voit que les acteurs russes et le groupe Wagner en Centrafrique mobilisent très régulièrement aussi cette rhétorique anticoloniale. Juste pour vous donner un exemple que je donne et qui est bien connu dans l'étude, Wagner a produit toute une série de productions culturelles, des films,
des dessins animés.
Et il y a un célèbre dessin animé dans lequel le peuple centrafricain est associé à un éléphant, l'armée, les facas sont associés à un lion. L'ours venu de Russie vient aider le lion. Contre qui ? Contre les hyènes, qui représentent notamment la France. Et les hyènes, ou les groupes terroristes, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment. Et les hyènes, c'est l'animal charognard par excellence.
Et donc il y a les hyènes et il y a le rat aussi.
Et le rat dans d'autres campagnes qui ont été menées plus tard. Donc on voit qu'il y a aussi cet usage de l'anthropomorphisme et de la fable. On est en plein dans le récit, là, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, pour eh bien, dénoncer cette présence occidentale et notamment celle de la France.
Donc c'est un moyen de dénigrement de la France particulièrement, alors qu'en même temps, le discours est le multilatéralisme. Comment expliquer cette stratégie exclusive en fait ?
Alors, ce qui est important, c'est de l'anticolonialisme et le discours anticolonial, c'est un discours qui est évidemment très élastique, très souple. Donc, il peut être utilisé pour dénigrer tel acteur à un instant T et puis un autre acteur à un autre moment. Et c'est très bien ce qu'on voit dans le cadre de la Russie, puisque cette rhétorique a été déployée pour dénoncer la présence française, en particulier au Sahel. Mais on voit aussi que, et c'est pour ça qu'on parle de récit stratégique, là je vous renvoie notamment à des travaux qui ont été, en anglais on parle de strategic narratives, donc c'est vraiment une rhétorique qui vise notamment à expliquer, un récit stratégique va expliquer aussi comment fonctionne le monde, va donner une valeur explicative et mettre en récit la manière dont fonctionne l'ordre international, les relations internationales. Et donc, ce discours anticolonial, il est aussi mobilisé à une échelle beaucoup plus macro par la Russie pour dénoncer justement tout l'ordre international libéral. On en parle beaucoup en ce moment avec la remise en cause de cette structure, notamment par l'administration Trump, mais c'est ce que fait la Russie depuis des années, de remettre en cause cet ordre international hérité de 1945 et puis de 1991 pour qualifier en fait ce système finalement comme un système de normes néocoloniales imposé par l'Occident pour assurer sa domination et son hégémonie sur l'ordre international. Donc on voit que c'est une manière très efficace finalement pour la Russie et à peu de frais, puisqu'en fait elle l'a déjà utilisé et c'est partagé par des tas de pays dans le monde, de renouveler en fait sa critique de l'ordre international dominé par les Occidentaux.
Oui, mais le fait qu'aujourd'hui, par exemple, un Donald Trump se rapproche de la Russie et en partage certaines valeurs avec Vladimir Poutine, est-ce que ça ne va pas brouiller les cartes ? Comment est-ce que cette stratégie va se déployer dans ce cas de figure ?
Si, absolument. C'est évidemment susceptible de brouiller les cartes parce que d'un seul coup, on voit que cette vision, j'allais dire, un peu binaire de l'ordre international avec ce que les Russes d'ailleurs qualifient d'un côté de majorité mondiale, c'est un terme qui est très en vogue aujourd'hui en Russie, Miravoye Balchinstvo en russe, qui est un terme qui d'ailleurs renvoie à l'ensemble des pays non occidentaux, c'est-à-dire que c'est le Sud global plus la Russie, puisqu'en fait le problème de la terminologie de Sud global, dont on parle beaucoup par ailleurs, c'est qu'elle n'inclut pas la Russie, qui est un pays du Nord ou de ce qu'on appelle en Russie l'Est global. globale. Et donc, il fallait un terme qui puisse associer cet ensemble. Donc, cette vision très, j'allais dire, binaire entre la majorité mondiale, pour reprendre ce récit aussi déployé par les acteurs russes et utilisé par les élites du pouvoir d'un côté, et la minorité mondiale occidentale, en fait, elle est plus opérante aujourd'hui avec les positions qui sont prises par l'administration Trump. Donc, on va avoir probablement une recomposition de ce discours.
Mais s'il s'agit de critiquer
l'Europe, ça peut toujours fonctionner. Et d'ailleurs, ce sont d'abord les puissances européennes qui ont été coloniales en Afrique, évidemment. Donc ça, c'est un discours qui peut toujours être utilisé. Et d'ailleurs, on le voit s'agissant de la France, mais on le voit aussi s'agissant du Royaume-Uni, par exemple, dans la communication qui est déployée par les acteurs russes en Inde ou en Afrique australe. Donc ça ne concerne pas que la France.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ceux qui véhiculent, qui propagent en fait ce récit stratégique. Et notamment en Afrique, on a les entrepreneurs d'influence. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, et notamment sur celui qui est très actif aujourd'hui, qui s'appelle African Initiative, qui est tout sauf d'ailleurs une initiative africaine en réalité.
Oui, alors effectivement, African Initiative, c'est vraiment le dernier acteur de l'influence russe, en particulier au Sahel. C'est un acteur qui est très présent aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et qui en fait est un acteur qui a émergé après la mort d'Yevgeny Prigojine et le démantèlement partiel de l'héritage laissé par Prigojine et Wagner en Afrique, et surtout avec l'apparition d'un nouvel acteur, qui est un nouvel acteur étatique, qui est donc ce corps africain, Africa Corps, qui est en fait une entité parapluie directement coordonnée par le ministère russe de la Défense et par le GRU, le service du renseignement militaire russe.
Et qui est en train d'absorber Wagner.
Qui tente en tout cas d'absorber avec plus ou moins de succès, parce que par exemple, ils n'y arrivent pas en République centrafricaine, où Wagner reste un acteur dominant, et où au Mali, visiblement, on observe des tensions même entre l'Africa Corps et le groupe Wagner. Mais pour revenir à African Initiative, donc c'est une sorte d'agence de presse qui se présente aussi comme une agence qui fait des projets culturels, des projets sportifs, qui cherche à coopter des figures militantes, associatives, culturelles, locales dans les pays d'implantation. C'est une organisation qui, d'après la presse russe indépendante, est dirigée par un personnage qui s'appelle Artyom Kouryeyev, qui est un officier traitant du 5e service du FSB, qui est le service du FSB en charge des opérations à l'étranger, et qui surtout, et c'est ça que j'ai étudié dans mon travail, est un acteur qui promeut énormément cette rhétorique anticoloniale. J'ai notamment mené ce qu'on appelle une analyse lexicométrique, où j'ai regardé l'ensemble des contenus produits par African Initiative, et j'observe qu'à peu près 12-13% des contenus produits par African Initiative en fait sont articulés avec cette rhétorique anticoloniale et cette dénonciation du colonialisme occidental au Mali, au Burkina, etc., etc.
Alors souvent, en matière de désinformation, on s'aperçoit que l'évaluation de l'efficacité des stratégies est toujours difficile. Qu'en dites-vous à propos de l'implantation de ce récit stratégique ? Est-ce que, selon vous, c'est une stratégie qui fonctionne bien ?
Alors, c'est toujours très compliqué de mesurer l'impact de ce genre de production de récits, notamment parce que, et j'ai envie de dire même que c'est impossible, parce que justement, la Russie n'a pas le monopole de cette production d'un discours anticolonial, et c'est justement parce qu'elle n'en a pas le monopole que cette stratégie fonctionne. Parce que,
il y a une convergence des récits, en fait.
Il y a une convergence des récits, il y a une convergence discursive, idéologique, notamment, par exemple, si on regarde effectivement toutes les pouvoirs issus d'un certain nombre de coups d'État en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, qui... Et puis surtout cette vague néo-souverainiste qui est un vrai phénomène très présent dans de nombreuses sociétés africaines, qui est un phénomène endogène, qui n'est pas un phénomène qui est poussé de l'extérieur, et qui est un phénomène sur lequel les acteurs russes viennent se greffer, un petit peu comme on a eu en Europe cette montée des populismes sur lesquels les acteurs russes ont cherché par leurs opérations d'influence à se greffer. Je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire de ce point de vue.
C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'amplification, de l'instrumentalisation, voilà, de quelque chose qui existe.
Et ce qui est intéressant, là encore, dans le cas de la Russie, c'est que précisément, la Russie n'a jamais été une puissance coloniale en Afrique, à la période soviétique, ce qui lui donne finalement une certaine légitimité je dirais, l'utilisation de ce discours, ce que pourrait par exemple absolument pas faire un pays comme la France aujourd'hui, notamment par exemple en dénonçant le colonialisme d'autres puissances. sens, parce que forcément, il y aurait un retour de boomerang immédiat. Et la Russie a cette possibilité, ces marges de manœuvre très claires dans sa production de récits. Donc ça, c'est quelque chose qui, de ce point de vue, fonctionne, qui est très utilisé.
Et moyennant quoi elle obtient finalement de la part des pays où se répand cette stratégie discursive, une sorte d'incendiement vis-à-vis de l'invasion, de l'agression russe en Ukraine.
Voilà, et c'est là où je voulais en venir, c'est justement qu'il y a pour la Russie un enjeu majeur aujourd'hui de façonner les perceptions du conflit en Ukraine auprès des audiences de ce qu'on appelle parfois le Sud global. C'est fondamental pour des tas de raisons, en particulier pour obtenir des dividendes politiques. On y a vu il y a quelques jours avec l'adoption de la résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies, où on voit que le Mali, le Burkina et les pays de l'Alliance des États du Sahel votent, contre cette résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux côtés de pays comme par exemple aujourd'hui les États-Unis qui ont voté contre, mais vous avez aussi d'autres pays comme par exemple la Corée du Nord. Donc il y a des dividendes politiques immédiats, mais il y a aussi cette volonté finalement d'entraîner tout un certain nombre de pays dans cette dénonciation et cette critique justement de l'ordre international, puisque, et c'est le sens de cette notion de désoccidentalisation de l'ordre international, c'est que la Russie cherche aussi à se présenter comme un pays qui est à l'avant-garde finalement de l'émergence d'un nouvel ordre international beaucoup plus multipolaire, beaucoup plus polycentrique, comme on dit en Russie, constitué de grands pôles de puissance souverain. Et je dirais que peut-être que la Russie n'a pas le poids économique ni politique pour le faire totalement. La Chine est beaucoup plus puissante de ce point de vue. Mais du point de vue discursif et narratif, la Russie, de ce point de vue, arrive très clairement à s'imposer. Et c'est là qu'il y a une vraie, force de la Russie, un savoir-faire pour pouvoir convaincre et façonner, voire manipuler, en fait, les perceptions des audiences internationales.
On a l'impression aussi qu'il y a une complémentarité entre ce type de discours et, à côté, tout l'écosystème informationnel, vous savez, dont on parle beaucoup dans cette émission, de toutes les fake news qui sont propagées par le dispositif russe, de façon très organisée. Tout ça finit par s'agglomérer.
Oui, parce qu'en fait, on peut... l'une des particularités, par exemple, des acteurs de l'influence informationnelle russe, et je pense par exemple à un média sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui est la chaîne RT, c'est que RT ne se présente pas comme un média centré sur la Russie, mais comme un média alternatif dans l'espace médiatique international qui cherche finalement à défendre un message contre-hégémonique, un message qui va finalement chercher à remettre en question, à attaquer une norme dominante qui serait celle des grands médias occidentaux. Et ça, c'est vraiment, j'attire votre attention sur le fait que c'est une posture communicationnelle. En réalité, c'est un média qui, derrière cette façade, défend sciemment, en fait, les positions de politique étrangère de la Russie à l'étranger.
Merci beaucoup, Maxime Audinet. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de cet article « Abat le néocolonialisme », entre guillemets, résurgence d'un récit stratégique dans la Russie en guerre. Vous êtes également l'auteur de ce livre qui a beaucoup fait parler, « Un média d'influence d'État, enquête sur la chaîne russe RT » aux éditions de l'INA. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sophie Malibaud, c'était donc Les Dessous de l'Infox à retrouver sur le site de RFI, www.rfi.fr. Dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, ce sera Afrique Soir, l'actualité du continent, avec vous. Donc avec vous et vous allez nous
bonsoir
dire
Philippe.
À la une.
Sylvie Bervet, avec vous, vous allez bien?
Absolument.
Oui, alors à la une, ce sera la crise entre Alger et Paris, donc et les derniers développements, puisque Emmanuel Macron est en déplacement au Portugal. Mais il a réagi puisqu'il appelle l'Algérie à réengager un travail sur l'immigration. Il met en garde contre des jeux politiques. Nous y reviendrons avec Valérie Gaz, qui suit donc le déplacement du chef de l'État au Portugal. Dans l'actualité également, le Soudan, où la guerre fait rage depuis bientôt 2 ans. Et ce conflit aggrave les conditions des déplacés dans les camps de réfugiés de Zamzam et d'Abou Chouk à Al-Fasher, capitale du Darfour du Nord. Des camps encerclés par les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Ce sera le dossier d'Afrique Soir et nous y reviendrons avec notre invité Mohamed Adam Abdoulatif, représentant des déplacés du camp d'Abou Chouk. Et puis enfin au Tchad, 1 an après l'assassinat de l'opposant Yahya Dillo, sa famille réclame que toute la lumière soit faite.
Ce sera donc dans Afrique Soir, une demi-heure d'informations consacrées au continent. Et je vous rappelle que ici, l'Europe, dans RFI Soir, recevra Christophe Hansen, le commissaire européen en charge de l'agriculture et l'alimentation, qui plaide pour davantage de flexibilité et moins de contraintes pour les agriculteurs.